Aujourd'hui, je voulais vous présenter certaines des réflexions qui m'ont habité pendant que je rédigeais mon mémoire de maîtrise qui portait sur l'histoire des solidarités internationales entre féministes durant la période de la décolonisation, là, dans les années 60-70, ben 60 et début 70. Faire l'histoire de la solidarité, en fait, c'est un peu faire l'histoire de l'échec, parce qu'en fait, tous les efforts pour construire des solidarités ont eu lieu dans le contexte de sociétés profondément divisées, dans ce cas-ci, sur la base de l'héritage colonial, du racisme, du sexisme, du classisme. Puis donc, ce n'est pas un secret qu'aucun effort pour bâtir des solidarités ne va jamais parvenir à transcender ces divisions-là. Donc, la grande question qui m'habitait pendant que je rédigeais, en fait, c'était à savoir comment faire l'histoire de ces efforts-là sans y voir constamment des tentatives naïves là, perdues d'avance. Donc, pour explorer cette question-là, je vais revenir sur une des études de cas que j'ai utilisées dans mon mémoire, qui sont les conférences indochinoises. Donc, je vais vous présenter rapidement cet événement-là, qui incarne vraiment le projet d'une politique de sororité globale, là, qui est vraiment le grand projet de solidarité féministe à ce moment-là. Je vais soulever un peu les enjeux que soulève ce projet de sororité globale, les enjeux politiques, théoriques, puis revenir un peu sur l'analyse de certains des manifestes qui sont rédigés dans le cadre de ces événements-là pour voir comment ils peuvent nous aider à repenser cette notion-là de sororité globale et son soi-disant échec. Donc, les conférences indochinoises sont organisées en 1971 au Canada. En fait, c'est deux grandes conférences d'une semaine qui ont lieu à Vancouver et à Toronto. Dans chacun des deux événements, il y a environ 600 féministes canadiennes et nord-américaines qui vont rencontrer une délégation de 6 femmes vietnamiennes. Donc, on est en pleine guerre du Vietnam. Puis, l'objectif de l'événement, c'est vraiment de témoigner de la solidarité des féministes canadiennes et états-uniennes avec le peuple vietnamien en opposition là, à l'intervention états-unienne. On parle en fait d'une des tentatives de coalition féministe les plus importantes là, de l'histoire des mouvements féministes de l'époque. Donc, l'événement va réunir des membres du mouvement de libération des femmes, des membres du mouvement lesbien, des militantes Black Power, des militantes du mouvement autochtone, des militantes Chicana, donc pour la libération des Mexicaines américaines. Donc vraiment un espèce d'éventail sans précédent là, de groupes féministes qui tentent de se coaliser dans le cadre de cet événement-là. Ce qui en fait, selon moi, vraiment un des événements fondateurs dans l'émergence de ce qu'on va appeler la deuxième vague féministe, parce que c'est vraiment la première fois là, où on va tenter de construire des ponts entre vraiment un ensemble éclaté de collectifs locaux pour se constituer en mouvement cohérent. C'est aussi dans le cadre de cet événement-là là, que va vraiment émerger puis se populariser l'idée de la sororité globale, qui incarne un peu le projet de bâtir une solidarité politique entre féministes par-delà les frontières géographiques, politiques, culturelles, raciales, puis qui va vraiment devenir un peu là, un des projets forts de la seconde vague féministe. Donc, les conférences indochinoises sont aussi un cas d'étude particulièrement intéressant pour mettre en évidence en fait les nombreux axes de tension puis de division là, qui traversent le mouvement à l'époque. En fait, comme je vous le disais, c'est vraiment une des plus vastes tentatives de coalition. Donc, il va y avoir un large éventail de groupes qui ont des visions souvent complètement différentes là, du féminisme, de la lutte, de la solidarité. Puis donc, quand va venir le temps d'organiser l'événement, il y a des conflits là, parfois violents qui vont éclater entre les différentes tendances, surtout en fait sur la question du racisme. Donc, ces conflits-là vont amener la plupart des historiennes à conclure à l'échec du projet de conférence, à conclure à l'échec du projet de coalition et même plus largement là, à l'échec du projet de sororité. C'est un peu ce qu'écrit Candice Cline ici. En fait, elle dit à propos des conférences qu'elle reflète les limites d'un projet de collaboration internationale fondé sur les fondements idéologiques instables de la sororité. La sororité a échoué à unir les femmes à une échelle globale parce que ça l'ignorait les inégalités et les expériences de vie fondamentalement différentes des femmes. Et les conférences indochinoises sont un bon exemple des conflits qui ont suivi. Donc, ces critiques-là de l'événement s'inscrivent vraiment dans le cadre d'une remise en question plus large là, de la sororité comme projet politique. Les premières critiques vont venir du courant Black féministe qui vont critiquer en fait certains discours hyper universalisants qui sont associés à la politique de sororité en dénonçant un peu la tendance à masquer les inégalités raciales qui se cachent derrière ces discours-là. Puis aussi, la sororité globale va être remise en question de manière encore plus fondamentale par la pensée queer, en fait, qui va remettre en question la pertinence même de bâtir une solidarité politique entre féministes en s'appuyant sur l'identité femme. Donc, ces critiques-là ont vraiment servi de point de départ là, à ma réflexion dans mon mémoire. Par contre, j'ai rencontré un problème, en fait, pas avec ses critiques, mais avec la manière dont elles sont appliquées par certaines historiennes, en fait, qui, quand on s'intéresse à la littérature sur la question, toutes les études qui mettent l'accent sur les angles morts du projet de sororité vont rester centrées sur l'analyse de quelques discours produits toujours par les mêmes féministes blanches de classe moyenne bourgeoise. Puis c'est vraiment ces discours-là qu'on va critiquer avec raison. Mais en faisant ça, on s'attaque à une conception bien particulière de la sororité qui est portée par féministes radicaux. Mais je trouve qu'en se concentrant uniquement sur ces discours-là, on en vient vraiment à proposer une vision étriquée là, de l'effervescence politique de la période. Puis je trouve qu'on en vient même à construire une espèce de méta-récit sur ce qui était le féminisme de l'époque qui va renforcer l'hégémonie du féminisme blanc parce qu'on va rendre invisible toutes les luttes de féministes ou de militantes plus marginalisées qui ont pu débattre, contester cette vision-là de la sororité, proposer des visions alternatives ou même, on va le voir, adhérer elle aussi à un projet politique dit de sororité pour des raisons qui leur sont propres. Donc, c'est pour ça que je veux un peu revenir en arrière, puis montrer en fait que la sororité, ce n'est pas un projet qui est univoque, qui est stable, qui est hégémonique, puis qui aurait donc pu réussir ou échouer, mais c'est vraiment un projet qui est constamment débattu, contesté, remis en question par vraiment une grande variété d'actrices. Puis, je trouve ça important en fait de reconnaître les contributions très diverses qui ont pu cohabiter là, à l'époque pour construire ce projet de solidarité féministe. Pour le bien de ma présentation, je me limite ici à l'action de trois groupes qui ont pu prôner une politique de sororité dans le cadre des conférences indochinoises. Mon idée, c'est d'un peu comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour ces groupes-là et pourquoi elles adhéraient à ce projet-là. Donc, je m'intéresse à l'action de la délégation vietnamienne, du mouvement de libération des femmes et d'un autre mouvement féministe qui existait en marge à ce moment-là ou en parallèle, celui du féministe dit tiers-mondiste. Donc, je vais y revenir, mais je voulais commencer par la délégation vietnamienne. Pour bien comprendre le rôle de ces militantes-là, il faut vraiment se replonger dans le contexte de la guerre du Vietnam. Donc, en fait, depuis le début des années 60, le Vietnam va être le théâtre d'un affrontement entre les forces capitalistes et communistes. Puis, au Vietnam du Sud, il va avoir en place un régime libéral de Diem qui est très proche des États-Unis. Ce qui va faire dire au mouvement de libération communiste, en fait, que ce régime-là est un régime marionnette à la solde des États-Unis qui incarne un peu là, l'impérialisme états-unien en Asie du Sud-Est. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il va y avoir une guérilla de libération communiste du Vietnam du Sud qui va s'opérer. Cette lutte-là va être vraiment présentée par les personnes qui luttent comme un combat qui serait dans la continuité là, des mouvements de décolonisation de l'Indochine. Face à ces guérillas-là, la réaction des États-Unis va être extrêmement violente, donc bombardement massif du territoire sud-vietnamien. Vraiment, l'objectif est de détruire complètement tous les réseaux de guérillas. Puis la violence de l'opération va déclencher une forte réaction là, en Amérique du Nord avec des grands mouvements pacifistes qui vont dénoncer l'intervention américaine et revendiquer le retrait des troupes. Donc, c'est un mouvement qu'on connaît assez bien, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce n'est pas juste une initiative spontanée là, de la société civile nord-américaine. En fait, c'est aussi un mouvement qui est vraiment encouragé puis stimulé par les forces communistes vietnamiennes elles-mêmes. Donc, en fait, en 1967, le Parti communiste vietnamien va lancer l'ouverture de ce qu'il appelle un front diplomatique et élaborer toute une stratégie de diplomatie populaire. En fait, le but, c'est de mobiliser la société civile vietnamienne, les syndicats, les organisations, les intellectuels, les artistes, pour créer des ponts avec les mouvements sociaux nord-américains. Puis l'idée, c'est à travers ces liens-là, d'encourager là, les mobilisations pacifistes en Amérique du Nord pour augmenter la pression sur Washington, dans l'espoir que Washington retire ses troupes ou au moins pondère un peu sa stratégie sur le terrain. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que l'Union des femmes vietnamiennes va être mandatée, en fait, pour construire des ponts avec les mouvements féministes nord-américains et les encourager à faire de la question du Vietnam un enjeu fort là, dans leur mobilisation. Donc, l'Union des femmes vietnamiennes va donc entrer en contact avec certains collectifs féministes pour demander et proposer que soient organisées les conférences. Puis c'est aussi elles qui vont vraiment insister là, sur l'importance d'avoir la coalition la plus vaste possible pour vraiment construire un contre-pouvoir massif face à l'impérialisme américain pour l'attaquer de l'intérieur. Donc ici, je vous ai mis un extrait d'un discours qui est livré par la délégation en vue des conférences, puis on voit vraiment cette insistance-là là, sur l'idée de coalition. Donc on parle de la chose la plus importante, c'est de mobiliser les plus larges forces possibles pour mener à bien nos actions. Nous avons besoin d'unité et de solidarité entre les nombreux groupes. Unité, unité, plus grande unité, succès, succès, plus grand succès. Donc, c'est vraiment un peu le mot d'ordre là, qu'elles vont sans cesse répéter. Elles vont insister sur l'importance d'inviter le plus grand nombre de groupes possible. Puis, c'est vraiment pour répondre à leurs attentes, en fait, que les organisatrices de l'événement vont recruter la plus grande diversité de collectifs possible. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, elles vont jouer un rôle hyper important dans la décision des mouvements féministes nord-américains de, pour la première fois, décider de tenter de construire des alliances par-delà les frontières raciales ou de classe qui avaient vraiment divisé le mouvement jusqu'à ce moment-là. Je trouve que c'est important de commencer par présenter leur rôle parce que ça m'amène à nuancer un peu certaines critiques de la sororité qui vont constamment présenter ce projet-là comme un projet imposé par les femmes blanches d'Occident. Mais en faisant ça, on en vient parfois un peu à nier là, la gentilité des militantes du Sud global qui ont, pour des raisons qui leur sont propres, comme on le voit bien avec cet exemple-là, prôné elles aussi la construction d'un projet de sororité globale. Donc, je trouve que c'est important de rappeler que c'est vraiment pas un projet qui seulement émerge en Occident et est imposé aux femmes du Sud, mais c'est aussi un projet qui est promu par les militantes du Sud elles-mêmes pour des raisons parfois différentes, mais des raisons qui leur sont propres. Puis, dans ce cas-ci, on va le voir, ça va avoir vraiment un impact majeur sur le développement des féminismes en Amérique du Nord. Puis, je trouvais ça important de souligner cette contribution-là. Donc, comme je vous le disais, les militantes vietnamiennes vont entrer avec des représentantes du mouvement de libération des femmes pour organiser l'événement. Donc, quand on parle de mouvement de libération des femmes, on parle de groupes surtout composés de militantes assez aisées, blanches, souvent qui ont une éducation supérieure. En fait, c'est beaucoup des collectifs qui vont naître sur les campus universitaires au sein du mouvement étudiant. Puis, il va y avoir des groupes de conscience qui vont se créer pour discuter du sexisme vécu au sein du mouvement étudiant. On va en venir à identifier la domination masculine comme un système de domination distinct, puis donc créer des collectifs autonomes pour la libération des femmes. Donc, c'est un peu l'origine de ces collectifs-là. Puis, c'est ces groupes-là qui vont entrer en contact avec la délégation, puis qui vont être chargés d'organiser l'événement. Quand elles vont recevoir cette proposition-là, elles vont vraiment accueillir la proposition avec enthousiasme, en fait, parce qu'elles vont y voir une première occasion de construire des ponts, justement, entre ces collectifs-là qui demeurent isolés là, dans les campus ou dans les villes, puis qui n'ont pas nécessairement d'infrastructures pour se lier entre eux, puis se consolider en mouvement cohérent. Donc, elles accueillent avec enthousiasme l'idée de conférence, puis c'est un peu ça que dit ici des membres du Montreal Women's Liberation qui expliquent. Nous espérons que ce qui sortira de cette conférence sera un fondement pour une solidarité et une communication à partir de laquelle nous pourrons construire un mouvement plus uni et plus efficace. Donc, on voit vraiment ici qu'on a affaire à un mouvement naissant qui n'a pas une plateforme politique claire ou une idée claire de la nature du fondement de cette solidarité-là. On n'a pas un projet fixe qui pourrait réussir ou échouer, mais on a vraiment l'impression, en fait, qu'aux yeux des militantes de l'époque, le fondement d'une solidarité féministe demeure encore à inventer. L'événement va être un peu l'occasion là, de réfléchir collectivement pour inventer ce fondement-là. Donc, pour ce faire, les organisatrices vont proposer de rédiger ce qu'elles appellent une déclaration de sororité qui serait rédigée par tous les collectifs impliqués dans l'événement, rédigée collectivement, puis remis à la délégation vietnamienne en guise de solidarité. Puis, dans leur rappel de texte, elles disent « Il nous faut trouver de nouvelles manières de comprendre les liens qui unissent nos vies et nos luttes. » Donc, encore une fois, on voit là, qu'à l'époque, la sororité, c'est vraiment une espèce de projet qui demeure flou, ouvert, malléable. En fait, on réfère surtout en fait, à une volonté d'ouvrir un espace de débat qui permettrait de construire des ponts là, entre un ensemble hyper éclaté d'initiatives. Puis, je trouve que quand on retourne dans les sources, en fait, ça m'a amené à remettre en question l'idée cliché qu'on a de ce projet-là. Souvent, on pense en fait que ce projet politique repose vraiment sur une essentialisation naïve du genre. Mais je trouve que quand on retourne dans les archives, en fait, la plupart des personnes impliquées ne semblent pas prendre pour acquis qu'il y aurait un lien naturel là, qui unirait les femmes. Au contraire, on semble penser la sororité comme un travail actif là, de construction de ponts puis de développement théorique pour nourrir ou créer des liens qui n'existent pas encore. Donc, comme je vous le disais tantôt, en parallèle du mouvement de libération des femmes, les conférences indochinoises vont servir de théâtre là, à la construction d'un tout autre mouvement féministe qui se construit en parallèle à la même époque. Donc, c'est un mouvement qui va se revendiquer du féminisme tiers-mondisme. En fait, c'est une initiative qui va naître de militantes Black Panthers de la région de New York qui entendent parler du projet de conférence puis qui décident de profiter de l'événement pour créer des liens entre les militantes qui appartiennent à différents mouvements antiracistes là, qui se multiplient à l'époque. Donc, elles vont décider, en vue des conférences indochinoises, d'organiser une délégation à qu'elles disent de Third World Women, aujourd'hui on dirait de femmes racisées en vue de l'événement. Puis donc, pour faire ça, elles vont entrer en contact avec des militantes chicana, autochtones, des militantes portoricaines, des membres d'un groupe de marxistes là, de libération des populations américaines d'origine asiatique. Donc vraiment, tout un effort de réseautage pour constituer deux grandes délégations de 300 Third World Women en vue de chacune des deux conférences. Je trouve ça hyper intéressant de retourner observer là, la constitution de ce réseau-là parce qu'on voit vraiment, c'est vraiment un moment fondateur dans la constitution d'un mouvement qui va devenir, on voit en fait la pensée, la genèse d'un mouvement qui va devenir intersectionnel, là, sans se nommer comme ça à l'époque, mais vraiment une première volonté de se fédérer entre militantes antiracistes pour lutter conjointement contre le racisme, le sexisme et le capitalisme. Puis, dans le fond, pour annoncer leur participation à cet événement-là, les militantes vont rédiger des manifestes, des lettres ouvertes, des tracts pour expliquer leur démarche, en fait, justifier leur choix de participer non seulement en tant que femme, mais surtout en tant que femme du tiers-monde. Puis, à travers ces textes-là, il y a vraiment toute la genèse là, d'une nouvelle pensée féministe puis d'une nouvelle conception de la sororité alternative qui émerge là, en tentant de justifier le choix. Donc, ici, je vous ai mis un extrait d'un texte rédigé par une militante chicana qui relate une rencontre avec les militantes vietnamiennes, puis qui dit les femmes vietnamiennes, commencé à comparer les réserves autochtones aux camps de concentration ennemis dans leur pays. Tout ce qu'elles disaient, nous pouvions relate et comparer avec ce qui nous arrivait ici. Nous nous sommes vraiment senties comme leurs sœurs. Donc, on voit ici vraiment une conception alternative de la sororité qui se forge pas vraiment sur le genre, en fait, mais qui repose vraiment sur le sentiment de partager une histoire commune puis d'être partie prenante d'une même lutte contre le colonialisme. Donc, ça fait un peu le tour de mon panorama des groupes impliqués. En guise de conclusion, je voulais vous laisser sur des réflexions des militantes qui pensaient à leur expérience au sein des événements. Puis, je trouve que ça résume vraiment particulièrement bien toute la complexité d'une politique de sororité. Donc, premièrement, je voulais revenir rapidement sur la question des conflits dont je vous ai parlé au début. Donc, ils sont nombreux à éclater. Je ne veux pas m'attarder sur les conflits, mais je voulais juste souligner en fait qu'aux yeux des militantes, ces conflits-là, ce n'est pas la marque de la faillite ou de l'insuffisance du projet de sororité. Au contraire, elles semblent même considérer que ça fait partie, que c'est partie prenante là, du processus. Donc ici, on a les membres de la délégation tiers-mondiste qui, après avoir vraiment critiqué de manière hyper virulente le racisme de certaines féministes blanches, elles concluent en disant, encore une fois, nous présentons ces critiques parce que nous voulons construire une sororité authentique et faire face aux différences qui nous divisent. Il y a une autre militante qui parle, elle, de sa confusion quant au meilleur moyen de générer de l'unité dans un monde qui est façonné, qui est fondé sur la désunité. Puis elle parle de l'importance de ne pas sous-estimer le travail difficile nécessaire pour passer par-dessus ces années de division-là. Donc vraiment, on voit qu'il n'y a pas un abandon de l'idée de sororité, mais plutôt une idée d'un processus constant ou d'une lutte constante pour lutter contre un système qui génère constamment de la division. On a aussi conscience que ce n'est pas un processus facile ou naturel. C'est pour ça que j'ai nommé ma diapo « We can't find a basis for unity, but we feel we should ». En fait, au terme de l'événement, les déléguées vietnamiennes vont demander à l'Assemblée « C'est quoi votre plus grand défi à partir de maintenant, vous, féministes nord-américaines ?» Il va y avoir un débat de plusieurs heures sur la question et la seule conclusion à laquelle on en vient, c'est celle-là. Puis je trouve que cette conclusion-là résume parfaitement là, toute l'ambiguïté de cette politique de sororité. Donc, d'une part, on a pleinement conscience qu'on est un mouvement éclaté, qu'il n'y a pas vraiment d'expérience fédératrice, qu'on essaie d'allier vraiment une grande quantité de subjectivité, mais en même temps, on sent muée là, par une espèce de sentiment d'urgence d'être capable de lutter collectivement malgré tout. Donc, En fait, si on veut définir l'idéal de la sororité, je pense que c'est vraiment là que ça se trouve. En fait, c'est une volonté d'ouvrir un espace de débat qui permettrait de contenir là, toute cette diversité-là des expériences, des aspirations, sans renoncer à la possibilité de lutter ensemble. Puis, selon moi, le code des conférences indochinoises montre que c'est un projet qui ne peut jamais réussir dans le sens où il n'y a aucun discours, aucun projet politique qui peut contenir l'ensemble des aspirations puis des expériences de toutes les militants qu'on souhaite fédérer. En fait, plus on va tenter de construire des solidarités pluralistes, des coalitions hétérogènes, plus on va être confronté à cette posture d'échec à faire tenir ensemble là, un ensemble hyper diversifié d'expériences. Je vais finir là-dessus, mais à mes yeux, cet état-là d'échec perpétuel ne devrait pas nous amener à... En fait, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, là. Selon moi, c'est partie intégrante de la dynamique constante de tout mouvement social. Puis même, c'est la condition même d'existence d'un mouvement qui serait pluraliste ou hétérogène ou diversifié.